cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 10 mai de l'an 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Je vous disais la dernière fois à propos du jugement de sagesse, c'est la reprise de toutes les distinctions, de toutes les découvertes qu'on a faites en analyse philosophique et métaphysique. Toutes les manières particulièrement d'exister. La dernière manière d'exister que le philosophe a découvert, c'est celle de l'homme. L'expression d'Aristote, qui est très belle et qui est un jugement de sagesse. Le to einai anthropo, l'être à l'homme. Pour parler de l'être à l'homme, c'est justement un jugement de sagesse. C'est Dieu qui nous atteint dans notre être et qui nous fait homme. Et donc, si le philosophe, d'une façon ultime, a regardé les sept dimensions de l'homme, la personne humaine, et non pas 6, 6, 6, ça il l'a dit entre parenthèses, mais c'est vrai, les six dimensions de l'homme, c'est avant la découverte de Dieu. Et on comprend très bien que quand on regarde l'homme avant la découverte de Dieu, avant les découvertes du Créateur, on risque de s'enfermer dans l'homme. Alors on a 6, 6, 6. C'est-à-dire on a l'homme qui se regarde comme homme et qui affirme qu'il est l'absolu homme. C'est ça, si c'est traduit en philosophie et en métaphysique. C'est vouloir faire de l'homme Dieu. La plus belle découverte de Dieu, c'est celle qu'Aristote a faite, saint Thomas le reconnaît, on ne peut pas aller plus loin, philosophiquement, on ne peut pas aller plus loin, le noésis, noéseos, la pensée de la pensée, oui, la pensée 6 de la pensée 6 et rien de plus 6. La pensée de la pensée. Et c'est comme ça que Hegel commence la philosophie de l'esprit. Donc, le terme de la philosophie d'Aristote devient le commencement de la philosophie hegelienne. Avec la confusion de l'être et de Dieu. Alors évidemment, l'être disparaît dans le mouvement. Je crois qu'au point de vue jugement de sagesse, la distinction première, radicale, fondamentale, c'est de voir en toute créature l'être et la vie sont distinctes. C'est une distinction absolument fondamentale. Et celle-là, c'est la première que je dois faire par rapport à l'homme. Si nous acceptons la distinction de l'être et de la vie, comprenez, nous répondons radicalement au père de l'athéisme. C'est pas à cause de ça que je le fais. Je le fais parce que c'est vrai, quand j'atteins l'être premier, je vois qu'en lui tout est simple. Donc, en Dieu, l'être et la vie sont un. La vie en Dieu, c'est la vie de l'esprit. Et donc, en Dieu, être et intelligence ne font qu'un. En Dieu, être et vie et amour ne font qu'un. C'est ce qui caractérise le mystère même de Dieu, le mystère de l'être premier, parce qu'il est acte pur, aucune potentialité en lui, dans son être. Il est l'acte pur dans son être. Par le fait même, cet être est parfait, il est vivant. C'est l'intelligence. En Dieu, l'intelligence est substantielle. Le premier dans l'ordre de l'être et le premier dans l'ordre de la vie. Donc ce qui est premier dans l'ordre de l'être et ce qui est premier dans l'ordre de la vie sont un en Dieu. Simplicité absolue. Et donc, il est bien la pensée de la pensée. Parce que rien autre que Dieu, que l'être de Dieu, puisqu'il est l'être parfait, acte pur, rien d'autre que l'être de Dieu peut être l'objet de sa vie, de son intelligence, de son amour. Dieu se contemple. Et c'est le privilège de Dieu. Dieu se contemple. En toute créature. Et dans la créature la plus parfaite. Pour le philosophe, c'est pas l'ange, la créature la plus parfaite, c'est l'homme. Mais ça revient au même, hein, que ce soit l'homme ou l'ange. Parce que l'ange est une créature, mais le philosophe n'en parle pas parce que le philosophe n'a pas d'expérience avec son ange gardien en tant que philosophe. Il peut en avoir. On dit que personne a eu une expérience de la reine des anges, Marie. Mais ça n'a pas fait partie de sa philosophie. Mais ça a fait, au point de vue de son âme, sa conversion. Et c'est resté secret, comme un philosophe peut le faire. C'est la vie divine pour le philosophe est secrète. Elle est tout à fait personnelle. Et elle n'ajoute rien à sa philosophie. elle ne peut rien ajouter à ses philosophies. L'ordre surnaturel ne me donne aucun concept nouveau, aucune lumière nouvelle, mais un jugement. Alors, la première distinction, la plus fondamentale, la plus radicale, ayant découvert Dieu comme créateur, c'est de faire que pour la créature la plus parfaite de Dieu, qui est l'homme, en l'homme, sa vie n'est pas son être. Son être n'est pas sa vie. C'est intéressant de voir que c'est vraiment la première distinction de la sagesse. Je peux le voir d'une façon négative, en voyant que si je ne fais pas cette distinction, j'aboutis à la position de Feuerbach. L'homme, en réalité, est Dieu. Et tout ce qu'il attribue à Dieu, c'est une nostalgie de son être. Et qu'en réalité, tous les attributs de Dieu, simplicité, perfection, bonté, amabilité, tout, intelligence, sagesse, tout cela, c'est lui. En l'homme, la vie, c'est son être. Son être, c'est sa vie. C'est vrai de dire ça. C'est vrai de dire que mon être, c'est ma vie, c'est sûr. Mais justement, ma vie présuppose mon être. Dieu, en réalité, crée mon être et crée des êtres plus ou moins parfaits. Mais c'est toujours l'être qui est le terme de la création. Et non pas la vie. Je vous ai déjà dit l'expression de Maître Eckhart qu'on a très mal compris en disant « Dieu ne crée pas la vie ». Alors, c'est important de comprendre ça. Dieu ne crée pas la vie. Pourquoi ? Parce que la vie implique le « semo vere ». Le vivant, c'est celui qui se meut. Alors, si on dit qu'il est créé, celui qui est créé est dépendant. Il est dépendant du Créateur. Il est radicalement dépendant du Créateur. Donc, en lui, il n'y a pas le semo vere. Il y a d'être mu par un autre. Or, l'homme est libre, l'homme a une indépendance, l'homme est capable de se mouvoir. Dans la personne humaine, il y a l'autonomie. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une personne si je n'ai pas une certaine autonomie. Si je suis un petit tout qu'on mène avec une petite corde, c'est pas un être humain, ça. C'est un être totalement dépendant. L'être humain est autonome dans sa vie, pas dans son être. J'ai une certaine autonomie dans ma vie, puisque je suis libre. Je peux choisir telle ou telle orientation de ma vie. Tandis que dans mon être, je suis totalement dépendant. J'ai été créé. Et je suis créé maintenant. Et de Dieu créateur me crée maintenant. Et dans mon âme, l'être de mon âme est créé. Et mon âme est principe de vie. Ah, si mon âme est principe de vie, elle est donc indépendante. Tout ce qui est principe est indépendant, est autonome. Donc si mon âme est principe de vie, elle a une autonomie radicale en elle. Et elle est dépendante de son être. Cette distinction de l'être et de la vie est le premier jugement de sagesse. Et toute ma vision de l'homme dépend de ce premier jugement de sagesse. Toute ma vie humaine dépend de ce premier jugement de sagesse. Puisque il y a distinction entre être et vie, ma première option, la plus fondamentale, ce sera donc de reconnaître ma totale dépendance à l'égard du Créateur. C'est donc l'attitude religieuse qui suit directement cette première distinction de la sagesse. C'est très important, ça. Ce qui est l'erreur fondamentale de Hegel, c'est identifier l'être et la vie. Hegel considère l'être comme rien du tout. Ce qui est important, c'est la vie. Il est signifie rien. C'est la conscience de ma vie qui est l'important. Et toute sa philosophie et sa théologie, puisque philosophie et théologie pour Hegel ne font qu'un, toute ma connaissance philosophique dépend de la grâce, puisqu'il est protestant, il reconnaît donc que l'intelligence est blessée et qu'elle ne peut plus naturellement atteindre son objet si ce n'est par la grâce. Il est fidéiste, Hegel. Et son fidéisme fait que c'est la vie surnaturelle, vie de foi qui est tout. Et n'oubliez pas ce que le professeur Bourgeois nous a dit ici en disant on ne comprend rien à Hegel si on oublie cette affirmation je suis protestant, je suis luthérien. En disant ça, il reconnaît que l'intelligence ne peut atteindre la vérité que par la foi. Il est fidéiste. C'est important pour nous de voir quelle est l'erreur fondamentale de Hegel. Si je ne vois pas cela, je me laisse entraîner et je ne peux rien dire. Si je vois ça, tout de suite, je comprends toute la conséquence. Et il faut, en face de la philosophie hegelienne, ce jugement de sagesse, avec une très grande rigueur. Et ce jugement de sagesse avec une très grande rigueur, c'est de montrer au point de vue de la vie, je suis autonome parce que je suis un vivant supérieur, un vivant spirituel. J'ai donc une autonomie et j'en ai l'expérience. Tandis qu'au point de vue de mon être, je reconnais que Dieu existe et qu'il est mon créateur. Et donc, au point de vue de mon être, je suis totalement dépendant à l'égard de Dieu. Reconnaître cette totale dépendance à l'égard de Dieu, c'est le point de départ de toute attitude religieuse. Le premier moment de l'attitude religieuse, c'est adorer le Créateur, mon Créateur, mon Père. C'est reconnaître cette totale dépendance. Et en reconnaissant cette totale dépendance, je fonde mon autonomie. Mon autonomie est tout à fait spéciale. Elle repose sur une dépendance radicale, reconnue. Si je ne reconnais pas cette dépendance radicale, je suis dans l'erreur. Et tout le reste est dans l'erreur. Donc, vous voyez que le premier moment du jugement de sagesse, c'est de reconnaître en moi distinction entre être et vie, et par le fait même de fonder la radicalité du point de vue religieux. Et ceci est très important aujourd'hui, puisque on veut mettre entre parenthèses, donc supprimer, le point de vue religieux pour l'Europe qui se construit. Construire l'Europe dans l'erreur. Puisque on ne veut pas le mot religieux. Reconnaître la distinction entre l'être et la vie, c'est la seule manière pour moi de reconnaître que la laïcité, telle qu'en France on la reconnaît, est l'erreur fondamentale. On ne peut pas accepter cette laïcité, elle est fausse, radicalement, puisque elle veut que l'homme soit totalement autonome dans son être. Ce qui est vrai de la vie, on le met pour l'être. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette distinction-là qui, je crois, est la première au point de vue sagesse. Vous voyez, c'est curieux, mais l'affirmation d'Aristote quand il dit « l'être à l'homme » montre bien la distinction entre l'être et l'homme. On ne dit pas l'être à Dieu. Dieu est l'être. Mais l'homme n'est pas l'être. Comment, bien, si vous étiez l'être, votre voisin qui aussi est être, comment serait-il distinct de vous ? Il faut bien que vous ne soyez qu'une partie de l'être. Vous n'êtes pas l'être total. Votre voisin apporte quelque chose. Vous n'avez pas cet orgueil suffisamment monstrueux pour dire « il ne m'apporte rien ». Tout ce qu'il a, je l'ai, et mieux que lui. Puisque lui reconnaît qu'il est dépendant de Dieu. Tandis que moi, je ne reconnais pas cette dépendance, donc je suis tout. On se fait Dieu. On se fait absolu. Alors, il ne reconnaîtra jamais ça. C'est ça qui est terrible. C'est que si vous n'acceptez pas la distinction radicale de l'être et de la vie, vous vous enfermez dans votre moi qui devient tout. Et vous n'acceptez pas que l'autre peut vous apporter quelque chose. Vous voyez, je vous montre tout de suite la conséquence. La conséquence, c'est on ne reconnaît pas l'adoration, donc on ne reconnaît pas cette dépendance radicale à l'ère de Dieu, et par le fait même, on ne reconnaît rien d'original dans l'autre. La seule chose que je peux reconnaître dans l'autre, c'est qu'il est un autre moi. Et je le reconnais dans la mesure où c'est moi. Mais ceci, ce n'est pas le reconnaître dans son autonomie. Parce que si l'autre fait le même raisonnement, il a le droit de le faire. Vous comprenez ? L'autre peut dire aussi, mais oui, qu'est-ce que tu es toi ? Je ne reconnais en toi que ce qui est moi. Et l'autre dit, je ne reconnais en toi que ce qui est moi. Alors on oppose, et c'est la dialectique. Immédiatement. Dès que vous ne reconnaissez plus l'être distinct de la vie, vous n'avez plus d'autre procédé que la dialectique. C'est-à-dire l'opposition vis-à-vis de l'autre et la domination sur l'autre par vous-même. Je le reconnais pour le dominer, pour être moi premier par rapport à lui. Il n'y a plus aucune possibilité de pensée analogique. La distinction de l'être et de la vie fait immédiatement que je reconnais que mon intelligence, qui est ma vie, fondamentalement, radicalement, ma vie, elle est autonome et ma vie s'exprime par la pensée, par l'intelligence, capable de connaître, capable de s'éveiller à la connaissance par l'être. Mais si l'être est identique à la vie, au point de vue de la vie, rien n'est supérieur à la vie de l'intelligence. Aucune modalité de la vie n'est supérieure à celle de l'intelligence. Par le fait même, l'intelligence, pour ne pas se dégrader, pour rester spirituel, n'a qu'un seul objet qui lui permet de rester spirituel, c'est de se connaître. Puisque l'être n'existe pas en dehors de la vie. Puis l'être et la vie sont identiques. Donc, le seul objet propre de l'intelligence, c'est de se connaître. Vous voyez, immédiatement, l'objectivité de la réalité, de l'être autre que moi, disparaît. Et c'est la subjectivité qui l'emporte. Dans l'ordre de la vie, je suis premier. Et vous concevez l'intelligence comme substance. Vous faites de l'intelligence une substance. Elle est première. L'intelligence est première dans l'ordre de la vie, mais pas première dans l'ordre de l'être pour moi. Et je peux immédiatement m'en apercevoir. Quand je dors, j'existe et je ne pense pas. Et la difficulté que vous avez de dormir, c'est que pour vous, votre intelligence, c'est votre être. Alors, vous ne pouvez pas dormir. C'est le petit gosse qui n'aime pas du tout aller dormir. Parce qu'aller dormir, c'est disparaître. Notre moi n'est plus là. C'est vrai, on dort. Quand un autre dort et qu'on est près de lui, on sait qu'il dort. Il ne faut pas aller trop pour le réveiller, mais il dort. Il n'est plus là. Oui, la présence. Quand on définit l'intelligence par la présence, c'est la subjectivité qui passe avant. Et l'objectivité qui commence par la connaissance de l'être, par l'affirmation « ceci est », disparaît. Votre jugement d'existence premier disparaît et votre première connaissance, c'est « je pense ». J'ai conscience de penser. Et c'est ce que Occam dit. Et depuis Occam, la succession jusqu'à Hegel. Il faut bien saisir ce manque de distinction. Qui est la distinction première de la sagesse. Et ne pas reconnaître cette distinction, c'est faire de votre intelligence la vie. C'est de faire de votre intelligence la connaissance de votre moi. En voyant que votre intelligence n'est chez elle, digne d'être intelligence qu'en se connaissant. Quand l'intelligence connaît une autre réalité matérielle, mais qui existe, elle se dégrade. Alors que pas du tout. L'intelligence se perfectionne en connaissant les autres. Elle augmente son champ d'action, elle l'étend. Et par là, ça lui permet de pénétrer plus avant. Vous voyez, cette erreur fondamentale qui est très radicale et qui existe dans le thomisme, il y a dans le thomisme, il y a quelques textes de saint Thomas qui semblent être un peu platoniciens, où l'être est identique à la vie intellectuelle, ou la vie intellectuelle plus exactement, se reconnaît comme l'être supérieur. Et donc, c'est par elle et en elle qu'elle atteint l'être. Vous voyez la féminologie. C'est dans le vécu intellectuel comme l'intelligence vit. Je ne peux plus atteindre l'être d'une façon distincte de la vie. Je ne voit plus que l'être a quelque chose d'unique, de fondamental, de premier, qui est l'objet propre de mon intelligence. Et mon intelligence commence à être, à vivre, quand elle atteint ce qui est l'être. Et quand elle atteint ce qui est l'être, elle peut aller jusqu'au bout et affirmer que ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est Dieu. Si l'intelligence s'enferme dans sa propre vie, l'intelligence voit qu'il n'y a rien de plus parfait pour elle que de se connaître. Et elle connaît l'être par la conscience qu'elle a de l'être. Donc, le mode particulier par lequel je connais est la manière dont je connais l'être. C'est très vrai que mon mode de connaissance est toujours présent dans ma connaissance, mais je suis capable de distinguer ce qui détermine mon intelligence et ma manière de le connaître. Ma manière de connaître et ce que je connais. Je peux distinguer les deux. C'est une distinction qui, chez saint Thomas, existe toujours, le quo et le quod. C'est très net, hein. C'est moi le quo et le quod, ce par quoi je connais et ce que je connais. C'est distinct et je suis capable de les distinguer. Je suis capable de poser ce jugement d'existence, de sagesse. Mon intelligence n'est pas mon être. Mon intelligence est première dans ma vie. Oui. Ça, je le reconnais, elle est première dans ma vie. Ma vie intellectuelle est fondamentale au point de vue de la vie. Mais elle n'est pas première dans l'ordre de l'être. Si elle était première dans l'ordre de l'être, je ne pourrais plus découvrir Dieu. Je ne découvrirais que mon intelligence. Or, Dieu n'est pas dans le vécu de mon intelligence. Si j'avais un concept de Dieu, Dieu serait dans le vécu de mon intelligence. Mais Dieu n'est pas dans le vécu de mon intelligence. C'est par le jugement, Dieu existe, que je suis Dieu comme une réalité transcendante. Comme une réalité qui m'échappe, comme une réalité première. Je ne peux le faire que par l'être. Il n'y a que l'être qui me permet de connaître une réalité autre que moi. Et donc, une réalité qui peut être supérieure à moi, qui peut être antérieure à moi, parce que l'être implique l'acte. Que j'atteins dans un jugement, ceci est, et que j'atteins pas dans l'appréhension. Alors vous voyez, puisque mon intelligence n'est pas première, je peux distinguer dans mon intelligence deux opérations. Mon intelligence, tout en cherchant la simplicité, tout en essayant de découvrir cette simplicité, elle est complexe. Mon intelligence est appréhension et jugement. Si mon intelligence était substantielle, je ne pourrais pas découvrir en elle ces deux moments. Je peux découvrir en elle ces deux moments parce que justement, elle n'est pas l'être premier. Mon intelligence est participée. Elle est ma vie. Et ma vie n'est pas mon être. Vous voyez, par ce que je vous dis là, et on pourrait le multiplier, je crois vraiment que la première distinction du jugement de sagesse, c'est de voir qu'en tout être créé, il y a une distinction fondamentale entre son être et sa vie. Par le fait même, je vois que l'être peut être connu avant la connaissance de la vie. C'est très vrai, c'est par les êtres vivants que je connais le mieux l'être, c'est sûr. Ils ont une dignité d'être qui est beaucoup plus grande, surtout dans l'être spirituel. Mais cette dignité dans l'ordre de l'être présuppose l'être. Et l'être est premier. Et l'être, alors, à ce moment-là, est distinct de la vie. Vous voyez que par ce premier jugement de sagesse, je retrouve la première distinction que j'essaie de faire par le jugement d'existence. Ceci est. Il n'y a rien de plus simple que ce jugement-là. Sujet et verbe. Ceci est. Le verbe être est le verbe le plus primitif. Et le ceci, sujet, est le plus indéterminé. Je rejoins par ce jugement de sagesse ma première attitude philosophique, distinguer le jugement sur l'être, sur l'exister, le distinguer de tous les autres jugements. Quand je dis ceci est un homme, ce n'est pas la même chose. Ceci est un être intelligent. Mais avant de regarder l'être à l'homme, je suis capable de saisir l'être. Ceci est. Et c'est très intéressant de voir que le premier jugement de sagesse rejoint le premier jugement de ma vie intellectuelle. Distinguer ce qui est de ce qui est imaginaire. Distinguer ce qui est de ce qui vit. Il y a comme une espèce de confirmation, voyez. C'est second, c'est pas pour ça que je le fais, mais une fois que je l'ai fait, ah, il y a une satisfaction de l'intelligence merveilleuse de voir que mon jugement de sagesse justifie ce que j'ai essayé de faire dès le départ de ma philosophie. Ma philosophie existe parce que je fais la distinction entre être et vie. Et je vois par le fait même que mon intelligence n'est pas ma substance. Alors, ça gêne beaucoup ceux qui affirment cela, ça les gêne beaucoup de dire que l'intelligence est un accident, puisqu'elle n'est pas substance. Vous voyez le sophisme. Mais mon intelligence est un être vivant. Elle est la vie. Et au point de vue de la vie, elle est première. L'intelligence se rattrape par la vie, voyez. Dans l'ordre de l'être, elle n'est pas première. Dans l'ordre de la vie, elle est première. Et ça, c'est très, très important. Si dans l'ordre de la vie, elle est première, ah, par le fait même, dans l'ordre de la vie, tout lui est ouvert. Dans l'ordre de l'être, elle doit reconnaître qu'il y a quelque chose avant elle. Dieu. Mon intelligence ne me fait pas connaître Dieu. Mon intelligence me permet de découvrir Dieu. Mais ce n'est pas mon intelligence qui me fait connaître ce qu'est Dieu. Dieu est supérieur à mon intelligence. Il est. Et si je n'ai pas, dès le point de départ, cette connaissance de l'être comme quelque chose de distinct de la vie, je m'enferme dans ma vie intellectuelle et je n'arrive pas à saisir quelque chose d'autre que ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle. Je reste enfermé dans l'immanence. Vous voyez que c'est le point de départ. C'est dès le point de départ que je dois saisir quelque chose d'autre que ma vie. Quelque chose qui transcende. Transcender. Quelque chose qui est au-delà et que je ne peux pas atteindre par l'immanence de ma vie. Si loin que je pousse l'immanence, j'atteindrai jamais la transcendance. Il faut la saisir dès le point de départ, en voyant la différence entre le jugement d'existence, ceci est, et dire je vis. Tout ce que je vis, je l'assimile. Le vivant assimile. Il mange. Il connaît. Il est capable de tout assimiler. Et il comprend tout dans un mode, dans une manière immanente de connaître. Mais il s'interdit de connaître quelque chose qui le dépasse. Si la vie est première et absorbe l'être, je m'enferme dans ma vie. Parce que mon intelligence devient première. Et je ne peux pas aller au-delà. Je vais au-delà de la vie, si j'atteins ce qui est comme quelque chose qui existe. Il y a donc, dans ce premier jugement de sagesse qui distingue l'être de la vie, quelque chose d'absolument fondamental. Vous voyez ? Au fond, c'est la réponse d'Aristote à Platon. Aristote n'accepte pas que l'intelligence, comme pour Platon, soit première. il reconnaît que l'intelligence est dépendante de ce qui est. D'où l'expérience. Pour atteindre ce qui est, pour atteindre ce qui est dans le monde physique dans lequel je me trouve, par l'expérience, justement. Donc, reconnaît que l'expérience sera source pour ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle pourra se développer grâce à cette expérience. Cette expérience me met en contact avec le monde autre que moi et donc permet à mon intelligence de se développer, de pouvoir progresser. Vous voyez que cette distinction qui se fait tout de suite, dès que j'ai découvert Dieu comme créateur. Et je comprends alors, voyez, cette parole qui à première vue semblait curieuse, Dieu ne crée pas la vie. Dieu crée des êtres vivants. Et il ne crée pas la vie. Vous voyez ? C'est très intéressant de voir ça. On m'a montré des articles très intéressants qui viennent de ce mouvement américain qui se dresse farouchement contre l'évolutionnisme, pour dire que nécessairement Dieu crée et le montre par la complexité de la vie. Ce sont des savants chrétiens, qui ouvertement s'opposent à cette position de supprimer la création. Alors, ils affirment Dieu crée la complexité de la vie. Alors, voyez, ce qu'on voit, c'est triste que ce n'est pas tout à fait exact. C'est apologétique. L'apologète va toujours un peu trop loin. Il y a toujours l'aspect du symbole, l'aspect du rhéteur qui veut aller plus loin. En réalité, Dieu crée des êtres vivants. Mais on ne peut pas dire que Dieu crée la complexité de la vie. La complexité de la vie vient des causes secondes. Mais Dieu crée l'être vivant. Vous voyez, il y a là une petite confusion qui est importante, et même très importante, parce que ce n'est pas exact. Dire que Dieu gouverne la complexité de la vie, oui, mais pas créer. Parce qu'il ne crée pas la vie. Et la modalité de la complexité. Mais il crée des êtres vivants. Il crée des êtres dont la vie est complexe. Et c'est vrai, notre vie est complexe. Nous n'avons pas de simplicité dans notre vie. Puisque notre vie implique notre vie charnelle, notre vie matérielle. Donc, elle est complexe, notre vie. Nous n'avons pas de simplicité. Nous avons une simplicité par notre intelligence, dans la vérité. Mais nous n'avons pas de complexité, de simplicité dans notre vie. Et c'est vrai, Dieu est créateur de notre vie, mais il crée notre être, il crée notre âme, pas notre corps. Dieu ne crée pas notre corps. Vous voyez, hein, faites attention à ce que je dis. Hein. Dieu gouverne notre corps par des causes secondes. Nos parents ont été causes secondes de notre corps. Autrement, alors, vous supprimez le point de vue de la cause seconde. Parce que la création est quelque chose de direct. Dieu crée la vie, crée l'être. Un être vivant. Il crée notre âme dans notre corps. Vous voyez ? Donc, créant notre âme dans notre corps, il demande à des créatures qui sont nos parents d'être coopérateurs de la complexité de la vie. Puisque la complexité de la vie vient de notre corps. C'est la première complexité, ça, de notre vie, c'est notre corps. Et ceci implique cette coopération avec Dieu qui crée notre âme dans notre corps. Et notre corps est ce milieu premier qui dépend de Dieu, c'est sûr, mais Dieu se servit de cause seconde. Si Dieu se servit de cause seconde, il n'a pas créé directement notre corps. C'est pour ça que je ne puis pas dire que Dieu crée la complexité de la vie.